Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, bienvenue à vous si vous nous retrouvez en direct dans quelques secondes. C'est le journal et à 19h20, le débat du Club des Idées. Ce soir, la guerre d'Algérie et la colonisation au programme. Après la remise au président Macron du fameux rapport Stora, comment réconcilier les mémoires? Vaste sujet. Faut-il s'excuser encore et toujours, ou mieux, en parler et l'enseigner? Des propositions sont sur la table, on en parlera donc avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. Il est 19h, bienvenue sur Europe 1.
Comment adopter des mesures communes en Europe face à un variant insaisissable? Casse-tête en ce moment pour les 27 qui s'interrogent sur la mise en place de mesures restrictives aux frontières.
Le laboratoire Pfizer décide de réduire ses livraisons. Voilà qui ne devrait pas faciliter la campagne de vaccination.
Sachant que la prise de rendez-vous pour les plus de 75 ans ressemble déjà à un parcours du combattant, on sera dans les Hauts-de-France où 37% des rendez-vous sont carrément annulés.
Au sommaire également, quand Emmanuel Macron compare les Français à des procureurs?
Prompt à juger la politique sanitaire du gouvernement, il dénonce la traque incessante de l'erreur.
Le président qui veut booster l'investissement de la France dans les technologies quantiques.
On vous expliquera de quoi il s'agit exactement. C'est notre avenir et notre souveraineté qui est en jeu.
À suivre aussi les révélations d'Europe 1 sur l'arrestation du Français le plus recherché par Interpol, Europol.
Par Europol, oui. Et puis un grand bol d'air avec Corinne Boulou et des navigateurs qui ne traînent pas en route à l'assaut du record du trophée Jules Verne.
Attention, prudence côté météo. Trois départements en vigilance orange dès demain matin, Anissa.
Il s'agit de trois départements du sud-ouest d'où va arriver la tempête Hortense demain. Nous aurons des pluies soutenues, des vents forts, le retour de la neige. C'est le programme de ce vendredi que je vous détaille à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les 27 dirigeants de l'Union européenne sont donc en ce moment chacun devant leur écran par visioconférence pour évoquer la pandémie qui n'épargne aucun pays d'Europe.
Et au programme de ces échanges, le fameux passeport vaccinal notamment, l'accès au vaccin pour un plus grand nombre, mais aussi la très sensible question des restrictions aux frontières de l'Union européenne. Isabelle Horry, vous êtes en direct sur place.
Oui, c'est un sujet qui est en train de monter, hein, celui des mesures à mettre en place entre les pays européens. Alors, vous vous souvenez comme en mars, les frontières s'étaient fermées de façon désordonnée, chacun agissant dans son coin. Eh bien, cette fois, il y a la volonté de tenter de mieux se coordonner. La France, par exemple, dit depuis la semaine dernière qu'elle envisage des contrôles sanitaires pour les Européens qui entreraient sur son territoire. Mais elle voulait d'abord en parler avec les autres pays, sachant que certains États membres comme l'Espagne, les Pays-Bas ou la Belgique exigent déjà un test PCR négatif et parfois impose une quarantaine. La Belgique voudrait même aller plus loin. Son Premier ministre veut interdire les voyages non essentiels. En clair, interdire aux Belges d'aller en France ou en Suisse pour les vacances de février et interdire le territoire belge aux voisins. Même Angela Merkel n'exclut plus la fermeture des frontières allemandes en dernier recours, dit la chancelière. C'est donc le sujet sur la table ce soir. Pas simple pour les Européens d'avoir une approche commune. C'est une compétence nationale et la vitesse de propagation des nouveaux variants change la donne de 48 heures en 48. Ce soir, l'agence européenne chargée des épidémies appelle en tout cas les 27 à prendre des mesures encore plus strictes dans les semaines à venir.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Alors en France, comme partout en Europe, la course à la vaccination est lancée avec plus ou moins de succès.
Et plus ou moins de rapidité hein, surtout. Et voilà qui ne devrait pas arranger les choses. On en parlait à 18h. Aujourd'hui, le laboratoire Pfizer-BioNTech a décidé de réduire ses livraisons.
Oui, au motif que l'agence européenne du médicament a recommandé il y a 10 jours de ne pas gâcher et d'administrer autant de produits que possible. On doit théoriquement, avec un flacon prévu pour 5 injections, en faire une 6e.
Et voilà qui effectivement pourrait compliquer la situation, sachant que dans plusieurs régions de France, les plus de 75 ans ont déjà énormément de mal à trouver un rendez-vous pour se faire vacciner, tout comme les personnes les plus fragiles. Pire encore, certains rendez-vous sont annulés, c'est le cas notamment chez vous dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
Effectivement, et concrètement, un tiers des rendez-vous pris dans les centres de vaccination des Hauts-de-France pour les 15 prochains jours doivent être annulés et reprogrammés ultérieurement. Ce qui signifie que des personnes de plus de 75 ans qui étaient parvenues, parfois non sans mal, à s'inscrire pour une séance de vaccination, reçoivent actuellement un coup de téléphone pour leur indiquer que celle-ci est reportée. C'est le cas de Jacqueline, retraitée de 80 ans, habitante de Marc-en-Barœul dans l'agglomération lilloise.
Mon rendez-vous était pour aujourd'hui, jeudi, 16h. Et à 10h30, 11h ce matin, on m'a téléphoné pour me dire que la séance était annulée et de toute façon, je n'ai pas de rendez-vous. Je ne peux téléphoner que d'ici 15 jours, 3 semaines pour essayer d'obtenir un rendez-vous. Pour moi, c'est urgent parce que j'ai du diabète et ensuite, j'ai des problèmes pulmonaires. Pour moi, c'était important d'être vacciné. Donc, j'en suis au point mort. Je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir me débrouiller.
Et dans certaines villes comme à Calais, par exemple, ce sont 40% des demandes qui, d'ici la fin du mois, ne pourront pas être satisfaites faute de stock de vaccins suffisants. disant d'ailleurs dans la première ville du Pas-de-Calais, l'ouverture d'un deuxième centre de vaccination prévu aujourd'hui a été reportée au moins d'une semaine. Seule garantie apportée ce matin par l'ARS, les rendez-vous pour la deuxième injection de vaccin sont bien maintenus, les réserves de doses nécessaires sont assurées.
Lionel Gougelot en direct de Lille, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Ces annulations et ces couacs sont souvent mal compris par les Français, à qui Emmanuel Macron a d'ailleurs fait des reproches aujourd'hui.
Oui, le président en visite à l'université de Saclay s'est adressé à ceux qui critiquent en permanence la gestion de la crise par le gouvernement.
Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible, et à se tromper pour pouvoir corriger le plus vite possible et s'améliorer. C'est ça ce qui fait une grande nation. C'est d'accepter sa part de risque et donc sa part d'erreur.
Emmanuel Macron, qui était donc à Saclay aujourd'hui, où il a fait des annonces à destination des étudiants à l'heure de cette crise sanitaire.
Oui, notamment la mise en place de 2 repas par jour pour tous dans les restaurants universitaires.
Ou encore la mise en place de soutien psychologique. Et le président a évoqué la possibilité d'une présence en cours 1 jour par semaine. Mais Virginie Riva nous expliquait tout à l'heure que ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air.
Et si Emmanuel Macron s'est rendu à cette université de Saclay, c'est aussi pour annoncer un grand plan pour soutenir l'information quantique, cruciale pour notre souveraineté. Il va falloir nous expliquer.
L'informatique quantique même. Le président qui a dévoilé effectivement un plan à 1,8 milliard d'euros pour rester dans la course. Bonsoir Clément Le Saffre.
Bonsoir.
Alors de quoi parle-t-on exactement? Ça paraît compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle un ordinateur quantique?
Alors c'est pas simple. Effectivement, un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui utilise les lois de la physique quantique. C'est un domaine de recherche qui s'intéresse à l'infiniment petit, l'échelle en dessous de l'atome. C'est un autre monde avec des lois physiques différentes d'une autre et ces lois peuvent être intégrés à un ordinateur pour effectuer simultanément des millions d'opérations de calcul très complexes. Pour l'instant, on en est encore à l'état de théorie, mais l'ordinateur quantique aura des applications dans de nombreux domaines. Analyse financière, intelligence artificielle, prévision météo, fission nucléaire ou encore dans la santé. Explication de Xavier Vasquez, directeur mondial des centres technologiques d'IBM System.
Un ordinateur quantique va pouvoir, par exemple, modéliser comment les molécules interagissent entre elles, comment elles sont structurées, comment elles sont réactives, comment on peut prédire sa réactivité. Ça veut dire que demain, eh bien, on va pouvoir synthétiser des molécules thérapeutiques et en fait, finalement, personnaliser de plus en plus la médecine.
Alors, c'est prometteur, mais ne vous emballez pas trop, vous n'aurez pas tous un ordinateur quantique dans votre bureau dans 10 ans. C'est un super calculateur, une machine de laboratoire. Les prototypes ne ressemblent pas du tout à des ordinateurs tels qu'on les connaît. Ce sont des enchevêtrements de fils et de tubes suspendus au plafond. On dirait des chandeliers, d'ailleurs, c'est assez joli. Et petit détail, l'ordinateur quantique ne peut fonctionner que dans un environnement à température proche du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius.
Ah oui,
effectivement, on n'en aura pas dans nos bureaux.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On a tout compris. Merci Clément Le Saffre.
Enfin, une bonne nouvelle. L'expansion de l'épizootie de grippe aviaire semble à ce jour contrôlée en Nouvelle-Aquitaine.
Et notamment dans son épicentre, dans les Landes, c'est ce qu'indique ce soir la préfète de région. Le Sénat débat aujourd'hui d'une proposition de loi visant à créer un nouveau crime sexuel pour protéger les mineurs de moins de 13 ans, enrichi à la dernière minute par des mesures spécifiques à la lutte contre l'inceste.
Le nombre de demandes d'asile a chuté de 41% en France l'an dernier sous l'effet de la crise sanitaire.
Ce qui marque une rupture très nette après des années de hausse depuis la crise migratoire de 2015. Selon les statistiques de l'immigration qui ont été publiées aujourd'hui, la pandémie a eu des conséquences importantes à la fois sur les flux migratoires entrants et sortants.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite du journal, 19h10, Europe 1 vous le révélait en début d'après-midi. François Di Pasquali, l'homme le plus recherché de France par Europol, a donc été arrêté hier soir en Espagne.
En cavale depuis plus de 4 ans, il avait été jugé en son absence à 10 ans de réclusion criminelle pour le viol d'une femme de 84 ans à Saint-Étienne en 2009. Il faisait partie, Gladys Laffitte, des 19 personnes most wanted, les plus recherchées, listées par Europol en 2020.
Oui, exactement. Et à ce titre, les enquêteurs de la BNRF, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, ont effectué un travail de fourmi pour le retrouver. Ils n'ont pas lâché l'entourage de François Di Pasquali, un franco-italien de 48 ans, des proches français notamment, dans la confidence de sa cavale, puisqu'il prenait beaucoup de précautions pour ne pas attirer l'attention visiblement. Mais petit à petit, les policiers apprennent que sa compagne est espagnole, que cette piste est donc peut-être intéressante à suivre. Une piste confirmée par un indice, récoltés lors d'une vaste opération de perquisition menée en France hier. Tout a été passé au peigne fin, cartes postales, téléphones, ordinateurs, bref, la confirmation arrive vite. Un immeuble où pourrait se trouver le fugitif est identifié dans la banlieue de Barcelone. Quelques heures plus tard, la police espagnole s'y rend et arrête donc François Di Pasquali en possession d'un faux passeport italien. Fin de cavale donc pour cet homme recherché depuis plus de 4 ans. Il devrait être remis à la France dans les 40 prochains jours.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Le foot et Noël Le Graët, candidat pour un quatrième mandat à la tête de la Fédération française. Il a 79 ans, sera donc en lice face à Frédéric Thiriez et Michel Moulin. Et puis la voile, les concurrents du Vendée Globe emmenés par Charlie Dalin sont toujours dans un mouchoir de poche après d'une semaine de l'arrivée. Mais ce soir, on va vous parler d'autres marins qui ne concourent pas sur ce Vendée Globe, mais qui sont en ce moment à l'assaut d'un record, celui du Tour du Monde le plus rapide. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir.
C'est bien parti, hein. Ils viennent de réaliser une descente de l'Atlantique Express.
Oui, Franck Camas, Charles Caudrier et leurs 4 équipiers se sont lancés à bord d'un multicoque de 32 mètres le 10 janvier de Brest, à l'assaut du record du Tour du Monde détenu par Francis Joyon depuis 3 ans. En 11 jours, ils ont déjà atteint le cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique du Sud, du jamais vu. L'équipage du trimaran volant Gitana vient de rentrer avec un peu plus d'une journée d'avance dans l'océan Indien, laissant derrière eux les douceurs de l'Atlantique, comme vient de nous le décrire Charles Caudrier.
Passage de l'équateur, descente le long du Brésil, c'était des moments assez magiques. Hein. On a eu de la mer plate, pas trop de vent, et c'est vrai que c'était un plaisir énorme. Le bateau volait, et là, depuis qu'on est arrivé dans le sud, c'est changement d'ambiance. Et là, c'est vrai que c'est très compliqué de faire avancer les bateaux. Mais c'est passionnant, parce que tous les jours, on apprend des choses.
Alors, pour rester dans les temps du record, ils vont devoir avaler les mers du Sud en 14 jours, dans les 40e rugissants et les 50e hurlants, là où les monocoques du Vendée Globe ont mis un mois. D'ailleurs, l'équipage du trimaran a une pensée pour les premiers du Vendée Globe, lancés dans un sprint final sans répit, comme vient encore de nous le confier Charles Caudrier.
Et c'est un autre exercice. Hein. Quand on va dormir, là, toutes les deux heures, on se dit, quand tu es en solitaire, tu dors pas, tu vas pas, tu te reposes pas. C'est sûr que c'est une course extrêmement dure et on le voit vraiment dans cette édition avec ce finish de dingue. Et là, je pense qu'ils sont tous dans le stress complet parce qu'il y a 4 bateaux qui peuvent gagner, quoi.
Oui, même un peu plus, 4, 5, 6. Pour battre le record, en tout cas, l'équipage du trimaran Gitana devra franchir la ligne au large de Ouessant avant le fin février, le 20 février prochain.
Merci Corinne Boulou. J'en profite pour vous dire que le navigateur François Gabart sera notre invité demain à 18h20.
Oh, belle invité. On l'écoutera avec grand plaisir. Alors lui, il sera l'invité de la matinale d'Europe 1 dans un autre registre. Il navigue plutôt avec les notes de musique. C'est Jean-Louis Aubert qui, après une longue période d'absence, sort un nouveau single. Où me tourner ?
Jean-Louis Aubert qui évoquera donc demain matin avec Mathieu Béliard notamment son rapport au confinement, à la période que nous traversons.
Tu m'as laissé seul dans la tempête. Avec mes rêves de conquête.
Jean-Louis Aubert invité demain à 7h40 du tête-à-tête de Mathieu Béliard sur Europe 1.
On sera à l'écoute évidemment. Merci Isabelle. Et demain vous serez donc aux commandes. Du 18-20 avec votre invité à 18h20 précisément, qui sera le navigateur François Gabart. La météo. Oui, c'est un joli garçon, Anissa. Vous levez les yeux au ciel. Oui, c'est un joli garçon.
Très concentré.
Vous aurez l'occasion de le rencontrer demain en studio, ma chère Anissa. Ne vous inquiétez pas.
On l'aime
en attendant,
beaucoup.
Vous nous annoncez de la pluie presque partout et des vents forts.
La pluie concerne toutes les régions, sauf la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne. Là, les éclaircies vont illuminer votre vendredi. Partout ailleurs, c'est de la pluie. Des pluies parfois soutenues, surtout dans le sud-ouest, où les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange, vent fort, parce que dans ces régions, on attend des rafales à 130 km/h sur les côtes, prudence. En montagne, la neige est de retour demain, des 1200 mètres. Et les températures, elles baissent un tout petit peu demain matin avec 1 degré à Aurillac, 3 à Lille et Nancy, 6 à Paris et 9 à Nice et Marseille.
Merci Anissa. À demain.
À demain.
Par la radio interposée, je vous écouterai. 19h15, dans quelques secondes, le débat du jour sur la guerre d'Algérie et la colonisation après la remise du fameux rapport Stora. On en parle avec nos invités. D'abord, la carte blanche ce soir avec Alexandre Malafaille.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Alexandre Malafaille.
Bonsoir
écrivain,
Julien.
Écrivain, entrepreneur, fondateur du think tank Sinopia. Alors ce soir, mon cher Alexandre, vous vouliez nous parler de la présidence française de l'Union européenne. Alors, peut-être d'abord pour tous les gens qui nous écoutent, parce que c'est un peu flou comme concept, de quoi s'agit-il ?
Alors pour être exact, en fait, il s'agit de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. C'est un conseil qui réunit donc l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des 27. C'est une instance qui existe depuis 1958. Elle est présidée à tour de rôle par chacun des pays de l'Union. Alors au départ, on la présidait tous les 3 ans, parce qu'on était 6, donc ça tournait vite. Puis après, à partir de 1974, on est devenu à la présider tous les 5 ans. Et puis on a fait ça jusqu'en l'an 2000, dernière présidence française tous les 5 ans. Ensuite, on a dû attendre 2008 pour reprendre la présidence. Et maintenant, ce sera 2022. Et la prochaine fois, compte tenu qu'on est 27 et que tout le monde y passe, ce sera 2035. Et le Brexit n'y fait rien. C'est parce qu'on a les Britanniques en moins que ça accélère le rythme.
Alors, à quoi ça sert, cette présidence de l'Union européenne ?
Alors, en fait, pour le pays qui préside l'Union européenne, pendant 6 mois, c'est important. D'abord, parce qu'il organise les travaux de l'Union européenne, il propose un agenda, il fixe des priorités, il a l'occasion de parler plus fort, de se faire entendre, de traiter des sujets qu'il veut vraiment approfondir, et puis de mettre sur la table son agenda. Et en ce moment, c'est le Portugal qui se concentre sur les enjeux de la transition climatique et de la transition numérique versus enjeux sociaux. Et ces priorités du Portugal, en fait, deviennent nos priorités. Alors ensuite, on viendra à la Slovénie, deuxième semestre de 2021, oui. Et ensuite la France.
Ah, et donc pour nous, ça tombe au premier semestre 2022.
Oui, ça tombe d'autant plus mal qu'en fait, on va avoir un contexte très compliqué à gérer. Mais moi, je m'étonne en plus, petit clin d'œil comme à l'histoire, ceux qui ont laissé passer cette date, quand on a décidé du calendrier, n'ont pas vraiment regardé ce qui allait se passer en France. Parce que d'abord,
Oui, il y a la présidentielle.
C'est ça. D'abord, il y aura les conséquences de la crise à gérer au niveau social, économique, etc. Et on n'aura peut-être pas fini le Covid. Et puis surtout, il y a l'agenda présidentiel. Vous imaginez, pendant 6 mois, le chef de l'État, début 2022, il va avoir une campagne sur les bras, toutes les priorités liées à sa gestion du temps. Ça va être extrêmement compliqué. Donc je crois qu'il ne sera pas en mesure de vraiment s'occuper de ça. Et puis deuxièmement, les autres pays, ils vont l'écouter d'une oreille distraite. Ils vont dire, écoute, Emmanuel Macron, va te faire réélire et reviens discuter avec nous après.
Ça se passe comme ça.
Alors, chef d'État, oui, je pense. Oui.
Que peut faire la France dans ce cadre ?
Alors, écoutez, la France, elle peut faire plein de choses. Elle a 2 solutions. Alors, la première, elle est amusante. Ce serait que le président décide d'organiser les présidentielles en 2021. Ça, c'est de la politique fiction. Qui sait, on verra bien. Surtout, je pense qu'Emmanuel Macron pourrait se tourner vers ses homologues, expliquer sa situation, ses enjeux pour la France, et de dire que il aimerait bien passer son tour. Par exemple, il pourrait proposer d'inverser le calendrier avec la République tchèque, qui pourrait à ce moment-là passer sur le premier semestre 2021, oui. Qui n'a pas d'échéance politique à ce moment-là. Et nous, on enchaînerait, et là, on aurait un vrai boulevard pour agir.
Et vous pensez qu'Emmanuel Macron pourrait faire cette demande ?
Écoutez, Julien, moi, je pense qu'il devrait le faire, ne serait-ce qu'en termes d'éthique et puis de respect de l'intérêt général et de l'Union européenne, à moins qu'il ne veuille se servir de cette présidence de l'Union européenne. Peine comme une tribune de plus pour sa réélection. C'est possible, c'est un calcul politique bien sûr, mais ce serait dommage. Et puis après, si Emmanuel Macron était battu, ce qui peut arriver, il prive les Français et leur nouveau président d'un vrai levier d'action. Et ce serait du gâchis, parce que vous savez, 6 mois, tous les 13 ans, eh bien, je pense qu'il faut en profiter et on ne peut pas se contenter de perdre un jour.
Bien, on verra ça évidemment ensemble, on suivra ça de près sur Europe 1. Merci Alexandre pour cette carte blanche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le débat du Club des Idées, c'est une page d'histoire douloureuse dont on va parler. La mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, c'est un sujet longtemps, vous le savez, resté tabou. L'historien Benjamin Stora vient donc de remettre un rapport très attendu au président de la République Emmanuel Macron. Plus de 90 pages avec une série de propositions très concrètes pour réconcilier les mémoires. Alors, est-ce nécessaire ? Est-ce que ce sera suffisant ou faut-il aller plus loin ? Quelle place aussi pour la repentance qui fait beaucoup débat ? On en parle ce soir avec nos invités Naoufel Brahimi El Mili. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po Paris et auteur du livre « France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète », tome 2 aux éditions Fayard. On en parle également avec Raphaël Branche. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris-Nanterre, auteur de « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» C'est une enquête sur un silence familial aux éditions La Découverte. Et on en parle également avec l'écrivain essayiste Pascal Bruckner. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
D'abord, pourquoi cette partie de notre histoire, je vous pose la question un peu naïvement, est si longtemps restée taboue et pourquoi, 60 ans après, on a toujours autant de mal à en parler ? Raphaël Branche.
Je ne suis pas sûre de partager votre diagnostic, en fait. Je ne suis pas sûre du tout qu'il s'agisse d'un tabou. Et encore moins qu'on ait du mal à en parler. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à votre question. Non, en fait, je pense qu'on en parle beaucoup. On en parle vraiment beaucoup. On en parle
c'est
de plus
récent.
En plus. On en parle depuis une vingtaine d'années, vraiment de plus en plus. En 1999, on a enfin appelé guerre ce dont il s'agissait en Algérie. Et ça a changé beaucoup de choses, en réalité.
Oui, vous pensez que ce n'est plus un sujet tabou aujourd'hui, la colonisation et la manière dont on en parle.
Tabou pour qui ?
Côté français, côté rapatrié, côté harkis, côté algérien ?
Moi, je ne crois pas. Je crois que le tabou fait appel à d'autres choses.
Naoufel Brahimi El Mili ?
Je dirais pas tabou. En revanche, je dirais que c'est un sujet qui est abordé d'une manière assez peu sereine.
Oui.
Il y a des patients qui ne se sont jamais tus. Et l'un des moments forts de ces patients-là, c'est la loi de février 2005 où les élus de la République ont voulu adopter une loi pour faire reconnaître les bienfaits de la colonisation.
Oui.
À partir du moment où les politiques veulent écrire l'histoire, l'histoire devient un sujet politique, forcément, et a fortiori quand il s'agit de l'Algérie, parce qu'il faut rappeler, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a 7 millions de personnes résidant en France qui ont une équation algérienne.
Oui.
Par équation algérienne,
je n'entends pas... Ce sont des pieds noirs, des immigrés, des militaires,
pieds
des
noirs, harkis. Voilà, les militaires, et en plus leurs enfants. D'où le documentaire « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?»
Oui, oui, oui. Vous, Pascal Bruckner, quel est votre regard aujourd'hui sur la manière dont on en parle et sur cette prise de conscience qu'évoquait à l'instant Raphaël Branche? Est-ce que vous considérez que voilà, c'est encore un sujet problématique, encore un sujet tabou, ou on en parle au contraire librement?
Non, moi je suis assez d'accord avec Raphaël Branche, ça n'est pas un tabou. Alors si c'est un tabou, c'est un tabou dont tout le monde parle. Il y a eu sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, je crois 3 000 à 4 000 livres publiés, des films... des documentaires, oui. Donc si ça c'est un tabou, c'est vraiment un tabou d'exposer, dévoiler en plein jour.
Ma question n'était pas de dire que c'est encore un tabou aujourd'hui, ma question était pourquoi ça a été si longtemps tabou?
Ah, ça a été très longtemps tabou parce que la France et l'Algérie se regardaient en chien de faïence, et d'ailleurs les deux États continuent à le faire en tout cas, mais ce qui est vrai c'est qu'en 2005, comme ça vient d'être évoqué, lorsque le gouvernement a voulu établir le caractère positif de la colonisation, on s'est retrouvé un peu dans la situation de l'Union soviétique.
Oui.
Ça n'est pas à l'État et au gouvernement de dire la vérité, c'est aux historiens. Et moi, je crois beaucoup à l'importance pour les historiens d'écrire l'histoire. Et je pense qu'il est plus important de faire une histoire détaillée et précise de part et d'autre de la Méditerranée plutôt que de vouloir réconcilier des mémoires, car il y a tant de mémoires diverses que les réconcilier me paraît difficile. Par contre, écrire l'histoire de cette guerre dans ses aspects les moins glorieux de part et d'autre,
oui.
ça me paraît indispensable.
Alors, on va en parler parce qu'il y a tout un tas de mesures qui sont proposées par le rapport Stora, justement, de Benjamin Stora, qui vont dans ce sens. Vous êtes d'accord d'abord avec ce que vient de dire Pascal Bruckner, Raphaël Branche, on ne peut pas écrire une histoire commune?
Alors, j'ai pas vraiment complètement entendu ça. Je pense qu'effectivement...
On ne peut pas réconcilier les mémoires.
Voilà,
on ne peut pas écrire...
Mais vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Il y a des histoires, nous dit Pascal Bruckner. Il n'y a pas une histoire.
Voilà, les mémoires sont par définition différentes. Elles s'ancrent dans des expériences qui sont différentes, qui sont parfois opposées et qui ont parfois été ennemies. Et elles s'ancrent dans des présents qui peuvent être différents aussi. Donc, par définition, les mémoires tiennent des discours sur le passé qui sont parfois irréconciliables.
Oui.
L'histoire, c'est autre chose. L'histoire, c'est un métier, c'est une profession, c'est celle que je fais. Et on essaye de tendre à la vérité. Et on peut espérer un récit historique que tout le monde puisse entendre.
Une question, puis on va marquer une première pause, Naoufel Brahimi El-Mili. Pourquoi ce rapport est-il si important et si attendu?
Il est si important et si attendu. D'abord, la personnalité de l'auteur, Benjamin Stora, est un historien reconnu, notamment sur le sujet.
Oui.
Ça fait 40 ans...
Non, mais au-delà de ça, ça veut dire que quand même, il reste un boulot considérable à faire.
Oui, ça fait 40 ans qu'il travaille sur le sujet. Oui. Il a plus de 40 ouvrages. Donc, c'est le meilleur choix. Et ensuite, il est attendu, notamment à cause d'une équation politique introduite par Emmanuel Macron, candidat, lors de son passage à Alger. Il a dit « la colonisation est un crime contre l'humanité ».
On l'écoutera, oui.
Voilà. Donc, il y a ça. Et il faut dire pourquoi ce travail était attendu. C'est plus tard. Emmanuel Macron a donné une lettre de mission le 24 juillet à Benjamin Stora. Mmh. Les rapports étaient attendus fin décembre. Bon, nous sommes le 20 janvier. Ça a été remis le 20 janvier, peu importe. Et je dirais parce que c'est très difficile de réconcilier les mémoires.
Oui.
Benjamin Stora dit toujours apaiser les mémoires.
Oui.
C'est différent.
Oui, on continue d'en parler dans quelques secondes, maintenant qu'on a posé un premier constat, et puis on s'intéressera à ces propositions et ces mesures, hein, tout à fait concrètes, dans ce rapport de 90 pages. À tout de suite, 19h28.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30 et c'est la suite du grand débat du Club des Idées. On parle ce soir évidemment de ce rapport de Benjamin Stora, l'historien qui vient de remettre au président de la République un rapport très attendu sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, avec tout un tas de propositions tout à fait concrètes. On va en parler avec nos invités. D'abord, vous faisiez référence, Naoufel Brahimi et El Mili, à ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il était candidat à l'élection présidentielle. C'était en 2017, à la télévision algérienne, il avait dit ceci.
La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
Il avait raison de dire ça, Raphaël Branche, professeur d'histoire contemporaine. Il avait raison de parler de crimes contre l'humanité. Ça avait beaucoup, beaucoup fait réagir à l'époque.
Alors, s'il avait raison, c'est une question compliquée, le crime contre l'humanité, puisque c'est une catégorie juridique qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'appliquer à des événements antérieurs, c'est compliqué.
C'est un message politique.
Donc, c'était assurément un message politique en Algérie. Je suis accompagné d'un meilleur spécialiste que moi sur cette question, mais en Algérie, la question de l'usage du mot a été est très ancienne. Et très clairement, en faisant ça, il reprend un mot qui était...
Je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, parce que je vous pose une question un tout petit peu plus large sur la place de la repentance et le rapport au mea culpa collectif. C'est une façon aussi de s'excuser quand même des crimes qu'a fait la France en Algérie, cette façon d'en parler, de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'il a raison, le président, d'en parler en ces termes?
Alors encore une fois, je pense que la question de la qualification, c'est un autre problème, mais faisant ça, effectivement, il fait quelque chose de très fort. Je ne suis pas sûre qu'il s'excuse en faisant ça. Les mots sont différents, mais très clairement, il va très loin.
Je vous pose la question parce que Benjamin Stora, dans son rapport, dit « Les discours d'excuses, c'est bien, mais ça ne suffit pas à calmer les mémoires blessées ». Votre avis, vous, Naoufel Brahimi El Mili?
Oui, déjà, le mot « excuse » était dans la déclaration de Macron candidat.
Oui.
Déjà. Et Benjamin Stora, dans son rapport, il évoque l'exemple Japon-Chine, Japon-Corée. Il dit qu'il y a eu beaucoup d'excuses, ça ne servit à rien. Bon,
absolument.
La France et l'Algérie ne sont ni le Japon, ni la Chine, ni le Japon, ni la Corée. D'une part, il faut rappeler les 7 millions qui résident en France, donc ça fait plus de 10% de la population.
Oui.
Ce n'est pas le cas dans ces trois pays asiatiques. Ce que Benjamin Stora a fait...
Dans un travail de devoir de mémoire, pardon d'appeler ça comme ça, mais la repentance, elle est nécessaire ou pas? Parce qu'il y a un débat aujourd'hui en France là-dessus.
Je fais la distinction entre repentance et excuse.
Oui, ça n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. D'autant plus que la repentance, c'est un mot très fort et connoté religieusement, ça biaise le débat. Les excuses, c'est autre chose. Mais quand on voit l'histoire de la colonisation française, il n'y a jamais eu d'excuses. Et le moment où on y a cru furtivement, juillet 2005, Jacques Chirac à Madagascar.
Oui.
Il a parlé des dérives du colonialisme. Madagascar, 47, oui. Selon le rapport de l'Assemblée nationale de l'époque, 89 000 morts. Le discours de Jacques Chirac parle de 15 000 morts. Peu importe les chiffres.
Oui.
C'est une polémique. Mais toujours est-il, mais les Malgaches, qui ont leur mémoire, n'ont pas le poids sociologique et politique qu'a l'Algérie en France. Et aussi, le gouvernement malgache, là je parle politique, était en position de faiblesse. Jacques Chirac était parti, où il a aussi annoncé l'effacement d'une dette de 50 ou de 60 millions d'euros.
Mais donc pour les Algériens, les excuses, elles n'ont jamais été prononcées, c'est ce que vous voulez dire?
Jamais.
Jamais, jamais. Elles devraient l'être.
Oui.
Oui. Pascal Bruckner, votre avis sur cette question de la repentance et des excuses?
Alors, je crois qu'en 2005, Benjamin Stora évoquait le manque d'enthousiasme des autorités algériennes devant le mea culpa des généraux français. Donc, il y a deux ou trois difficultés. La première, c'est qu'on ne connaît pas la position d'Emmanuel Macron. Macron est quand même une sorte de personnage très fluide, qui change. Il parlait en Algérie d'excuses, maintenant il ne veut plus de repentance ni de pardon, il veut une réconciliation. Donc il est difficile de savoir ce qu'il pense, car lui-même ne semble pas savoir exactement comment aborder ce problème.
Oui.
Et puis, c'est quand même un peu embarrassant. D'autre part, est-ce que l'Algérie reste une passion française? Honnêtement, je ne le pense pas. Je crois que si vous intéressez jeune génération et même déjà ma génération, la colonisation était un projet tellement aberrant qu'on ne comprend même pas aujourd'hui comment nous avons pu nous fourvoyer dans cette aventure malheureuse. Et la difficulté, à mon sens, c'est que si l'Algérie n'est plus une passion française, sauf chez quelques nostalgiques, la France reste une passion algérienne. C'est-à-dire que l'Algérie contemporaine se définit essentiellement contre Paris. Je crois que dans l'hymne national algérien, la France est encore désignée comme l'ennemi, près de 60 ans après. Et là, il me semble que c'est la difficulté. Alors. Et là, même si la France présentait ses excuses, l'Algérie continuerait à la considérer comme en dette vis-à-vis d'elle.
Moi, j'ai une question très précise à vous poser les uns et les autres, très terre-à-terre d'une certaine manière, pour que chacun et nos auditeurs qui suivent ça de loin comprennent aussi de quoi il en va. Et, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de cohésion nationale à apaiser les générations d'Algériens, de Français pieds-noirs, rapatriés, qui aujourd'hui ont toujours du mal à aborder cette histoire aussi parfois dans leur famille avec une certaine rancœur? Et je voudrais m'appuyer sur un élément qui peut paraître anecdotique, et vous allez me voir si vous êtes d'accord. La Marseillaise sifflée par les supporters algériens lors d'un match de foot, souvenez-vous. Voilà, c'était en 2001, on entend les sifflets. Jacques Chirac était furieux, il avait tourné les talons, si je me souviens bien.
Non. C'était un... Il n'était pas au stade.
Il n'était pas au stade.
C'était Jospin et Buffet,
vous avez
ministre
raison.
Des Sports.
C'est un match amical qui a été stoppé à la 76e minute. Est-ce que cet événement est aussi, d'une certaine manière, le symbole de cette distance qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les enfants de deuxième ou troisième génération d'Algériens et les Français?
Puisque foot, il y a, depuis 2001, un grand match. Même quand l'Algérie ne joue pas, on voit les drapeaux algériens qui circulent. Donc ça, c'est devenu une constante. Mais indépendamment du foot, qui a une forte connotation politique, et...
Mais c'est ça aussi l'enjeu de ce qui se joue en ce moment ?
Non, on a parlé d'échecs, d'intégration, on a donné toutes les explications, mais à l'époque de cet incident, entre guillemets, personne n'a parlé de mémoire en 2001. En 2001, la mémoire, suite à cet événement, c'était pas un sujet. Et juste, je souhaite revenir sur les généraux qui ont fait leur mea culpa.
Oui.
Je ne vois pas lesquels. Je rappelle la même période, 2005, il y a eu le général Ossarès qui a publié ses mémoires. Il a été condamné pour apologie du crime. Il y a eu le général Massu qui a publié son livre avant. Il n'a pas fait de... Aucun d'entre eux n'ont fait de mea culpa.
Oui. Votre avis, Raphaël Branche, pour revenir à cet enjeu de cohésion nationale, il est important aussi dans ce travail de mémoire avec ce rapport Stora?
Alors oui, je pense qu'il est crucial. Vous avez raison d'insister dessus parce qu'on a au moins deux directions, en fait. Il y a l'Algérie, on ne sait pas très bien de qui il s'agit, le gouvernement algérien, l'État algérien, le peuple algérien, ce n'est pas du tout la même chose. Et la France, les Français, et là aussi, il y a plusieurs groupes, hein, et qui ne sont pas que des groupes porteurs de mémoire, qui sont, voilà, comme vous l'avez dit, des gens qui nous écoutent, qui n'ont aucun lien personnel avec l'Algérie, mais qui savent que quand même, l'Algérie, ça gratte et ça démange quelque part en France. Donc oui, il y a quelque chose de très important à ce qu'il y ait quelque chose de clair qui soit énoncé sur les responsabilités de la France, sur son histoire, qu'elle doit assumer. Je pense que c'est très clair. Et c'est pour ça que le cadre, la définition dans la mission du rapport Stora était intéressant. Ce n'était pas la guerre d'Algérie, c'était la colonisation. Et donc, c'était toute la séquence dont on porte encore les héritages dans la France d'aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui doit être assumé. C'est-à-dire que le discours qui est tenu aujourd'hui, c'est un discours politique, oui, évidemment. Oui. Et donc, c'est un discours au présent. Et donc, on ne s'adresse pas qu'au passé et qu'à des gens porteurs de mémoire d'un passé.
Et justement, on va se projeter avec les propositions de ce rapport Stora, notamment l'enseignement de la guerre d'Algérie et de la colonisation à l'école. A tout de suite, 19h40.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on poursuit le grand débat du Club des Idées avec ce soir l'historien Benjamin Stora qui vient donc de remettre son rapport très attendu au président de la République Emmanuel Macron pour tenter de réconcilier les mémoires, même si l'expression parfois fait débat, de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Alors, il faudrait qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet avec ces propositions. Il y en a un certain nombre très concrètes, comme renforcer l'enseignement de la guerre d'Algérie dans les programmes scolaires et de la colonisation. Aujourd'hui, il est enseigné dans les programme d'histoire de première générale, cette colonisation et cette décolonisation, ça représente à peu près 7 à 8 heures par an. Ça n'est pas énorme, on verra ce que vous en pensez dans un instant les uns et les autres. Je voudrais simplement avant vous faire partager cet extrait de témoignage d'un professeur en collège-lycée de Seine-et-Marne. Quand il aborde cette question de la colonisation, il l'aborde avec beaucoup de précaution. Voilà ce qu'il dit.
Je suis plus précautionneux pour deux raisons. D'une part parce que je suis moi-même fils de pieds noirs. Deuxièmement aussi parce que c'est vrai que c'est une question qui touche de nombreux élèves directement. Quand je vais aborder par exemple les divisions entre les Algériens, qu'on aborde la notion des harkis, très souvent j'ai des élèves qui vont être assez véhéments en disant « oui, les harkis sont des traîtres, etc. » Ce qui est difficile pour le prof d'histoire, c'est essayer de sortir voilà, à nouveau de cette caricature-là.
Voilà. On rentre vraiment dans le cœur du sujet, parce que là, on est exactement dans l'héritage de cette histoire commune-là. Alors ça, c'est monsieur le professeur. Et puis après, il y a les élèves qui en parlent, notamment d'origine algérienne. Et ils disent ceci.
Dans les livres, ils minimisent un peu ce qu'ils ont fait. Ils ne parlent pas des femmes violées, des maisons brûlées, tout ça. C'est les amis, c'est les tantes, les grands-mères, ma mère. Ouais, c'est eux qui m'ont appris tout ça.
On est obligé de suivre le programme, quoi. On ne peut pas dévier, quoi. Ils nous sortent ça, à chaque fois, les profs. On n'est pas d'accord sur tout, quoi.
C'est très concret ça, Raphaël Branche, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris-Nanterre, vous connaissez bien cette question de la colonisation et de l'Algérie. Renforcer l'enseignement de cette période-là, c'est une bonne idée ?
C'est toujours un peu compliqué, oui, c'est toujours une bonne idée de renforcer l'histoire, mais il y a déjà beaucoup
c'est
de place
beaucoup,
faite à
8 l'histoire. Heures par an quand même.
Oui, mais il y a énormément de choses à raconter, beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses fondamentales pour l'identité des Français. Si on pense que l'histoire a cette vertu et cette vocation, ce dont je ne suis pas complètement sûre, mais en tout cas... C'est déjà là, et c'est mieux qu'avant.
Hein, mais vous avez vu 60 ans après ce que continuent à dire les professeurs
mais tout à fait,
et les jeunes élèves.
Je veux tout à fait, si vous m'autorisez, commenter ce que vous avez passé, parce que c'est passionnant. En revanche, là où je suis complètement Benjamin Stora, c'est pour les lycées professionnels. Et pour la dimension optionnelle de cet enseignement dans le lycée général. Mais effectivement, ça serait bien qu'on assume que c'est un des éléments importants de
comment
l'histoire
française. Comment est-ce qu'on vient d'entendre, alors ?
Dans ce qui vient d'être, moi, j'interviens assez souvent auprès des enseignants, dans les formations des enseignants. Et j'interviens aussi souvent dans les collèges ou les lycées pour accompagner une exposition qu'on a faite qui vise à raconter la colonisation et la guerre d'Algérie. Et ce qu'on a entendu est tout à fait à l'image de moi, ce que j'entends. C'est-à-dire beaucoup de récits familiaux qui viennent contredire ou contrarier ce que les enfants entendent à l'école, ce que les élèves entendent à l'école. Et c'est heureux qu'il y ait une parole scientifique qui puisse être délivrée et mise en comparaison de ce qu'ils entendent à la maison.
Mais est-ce que factuellement, quand ce jeune lycéen dit ce qu'on nous raconte à l'école, ben c'est un peu minimisé par rapport à la réalité des faits. Est-ce qu'il a raison factuellement, Naouf El Brahimi El Mili ?
Factuellement, il n'a pas forcément tort.
C'est une réponse de Normand, ça.
Oui. Ce que ce jeune n'a pas dit, parce qu'il ne sait pas, son grand-père, s'il avait été à l'école, on lui aurait enseigné nos ancêtres, les Gaulois. Mmh. Donc, on revient de loin.
Il y a une évolution.
Il y a une évolution.
Alors, votre avis, vous...
C'est parce que dans tous les pays africains, nos ancêtres, les Gaulois, c'est devenu un gars.
Est-ce qu'il faut renforcer l'enseignement de la colonisation à l'école, comme le préconise le rapport Stora ?
Oui, il faut renforcer l'enseignement. Le tout, c'est de trouver le temps juste, ce qui est difficile. Parce qu'il y a des vérités historiques. Mmh. Et ensuite, comment équilibrer un tel enseignement ? Comment équilibrer un tel enseignement ? C'est ça la difficulté. Ouais. C'est parce que le jeune qui veut entendre les femmes violées et les maisons brûlées,
oui.
Ça s'est passé, personne ne le nie.
Oui.
Mais il n'y a pas que ça.
Oui.
Il y a aussi...
Donc c'est une question d'équilibre.
C'est une question d'équilibre. Le plus important,
c'est ce que dit Benjamin Stora, d'ailleurs.
Où est-ce qu'on met le curseur ?
Alors, Pascal Bruckner, vous êtes toujours avec nous, essayiste, philosophe. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à cette idée de renforcer l'enseignement ? Et puis, plus largement, à multiplier aussi, parce que c'est ce qui est dit dans le rapport, les hommages, les commémorations, panthéoniser, pourquoi pas, Gisèle Halimi, qui avait fait son combat contre le colonialisme et la guerre d'Algérie. Est-ce que ça peut aider à réconcilier les mémoires ?
Moi, je pense que la France doit évidemment reconnaître ses crimes et condamner l'aventure coloniale qui a été l'occasion de honte et d'abomination. Mais concernant l'Algérie, si l'on veut faire l'histoire, il faut faire une histoire équitable, c'est-à-dire reconnaître les fautes de part et d'autre, car il ne faut pas oublier que la guerre d'indépendance en Algérie a été aussi une guerre civile qui a eu un affrontement impitoyable entre le FLN et le MNA de Messali Hadj. Donc il faudrait aussi faire le bilan de l'indépendance algérienne depuis 60 ans. Qu'est devenu ce régime dont la seule raison d'être semble être depuis 1962 la dénonciation de la France pour expliquer tous les échecs. Donc moi je crois que l'enseignement de l'histoire dans les écoles doit avoir pour but une simple chose, aidez-nous à divorcer. C'est-à-dire l'Algérie a acquis son indépendance, c'est une excellente chose. Nous on a l'impression que le pouvoir algérien, je ne parle pas du peuple, mais le pouvoir algérien n'arrive pas à se défaire de l'obsession française. Et moi, c'est ça qui me frappe quand j'entends les officiels algériens parler.
Bien sûr, mais là, je suis plus sur les résonances chez nous en France pour réconcilier les jeunes générations de descendants d'Algériens ou encore les jeunes générations de descendants de Harkis, de rapatriés, de pieds noirs. C'était plutôt dans ce sens-là ma question, Pascal Bruckner.
Oui, mais est-ce que vraiment c'est la guerre d'Algérie qui divise les gens ou est-ce que c'est des situations singulières? Est-ce que c'est pas le problème de la religion musulmane qui fait problème? Et moi, ce qui me frappe, c'est que pour la majorité du peuple français, la question coloniale n'est pas une question centrale. C'est qui le traumatisme pour nous Français, c'est les deux grandes guerres mondiales. La colonisation, tout le monde considère que ça a été une énorme erreur, mais ça n'est pas l'obsession du pays. L'obsession du pays, c'est vraiment la défaite de 40, la guerre de 14. Et je suis frappé de voir que ce débat sur la colonisation reste quand même très minoritaire dans le pays.
Bien, merci Pascal Bruckner, vous restez encore avec nous. On ne va pas commenter tout ce que vient de dire Pascal Bruckner, mais il y a quand même un élément, on peut mettre les pieds dans le plat, Raphaël Branche, il y a quand même un élément, est-ce que ce manque parfois de sentiment de cohésion nationale avec les enfants de troisième génération qui ne se sentent pas appartenir à la patrie, à la République française, c'est un état de fait qu'on observe notamment, on l'a passé tout à l'heure avec la Marseillaise sifflée, est-ce que c'est dû à cette mémoire collective, et à cette histoire qui n'est pas réglée avec l'Algérie? Est-ce qu'il y a un effet de causalité?
Alors, il n'y a aucune étude qui permet de répondre à votre question et aucune étude qui permet de dire, comme vous l'avez dit, les enfants de troisième génération ne se sentent pas. Je pense qu'on peut.
Non, certains.
Pas du tout. Mais oui, je suis désolée, mais vraiment, je pense que c'est exactement de ces amalgames que certaines personnes souffrent. Oui. Donc, précisément, il faut dire que voilà, il y a des problèmes d'appartenance, il y a des appartenances multiples qui doivent pouvoir être assumées sans que ce soit des souffrances. Et écouter ce qui est dit. Moi, quand on va dans les classes et qu'on entend les enfants dire « et ma grand-mère m'a dit », etc., ben voilà, on peut, et les enseignants le font, écouter et essayer de rendre un peu de légitimité à ce point de vue. Ce qui n'est pas, pardon de reprendre sur ça, ce qui n'est pas dire de part et d'autre. Comme si on devait donner des bons points et dire « bon alors, nous, les Français, c'était pas bien, mais les Algériens, c'était pas tellement mieux ». Il y a quand même derrière le colonialisme qui fait que nous n'étions pas à égalité, les Français, face aux Algériens.
Pardon, mais là aussi, on est dans le cœur du sujet, Naoufel Brahimi El-Mili, parce que c'est un des marqueurs de fracturation entre les différents peuples qui ont vécu cette guerre d'Algérie et la colonisation. Il y a eu une concurrence victimaire pendant longtemps, où chaque groupe de mémoire, j'allais dire, érigeait sa blessure comme supérieure à l'autre. Oui. C'est ça aussi qui fait qu'on n'a jamais réussi à réconcilier cette histoire-là.
Je prends la liberté d'évoquer le côté algérien. Jusqu'au départ, plus ou moins volontaire, de Bouteflika, le pouvoir algérien avait une rente mémorielle.
Oui.
Voilà. Et là, le changement, c'est qu'il y a eu cette révolution qu'on appelle le Hirak, aussi en Algérie, aussi bien en France. Ce qui m'a frappé dans ce Hirak-là, c'est qu'on brandit les portraits des héros de la révolution. Donc, chez cette génération, ce mouvement qui veut un changement profond reste rattaché à la révolution algérienne. Donc, il ne faut pas dire que c'est une obsession du pouvoir. Le pouvoir s'en était servi, c'est une rente mémorielle, ça a duré 50 ans, 55 ans, 60 ans, peu importe. Mais là, on a affaire à un mouvement qui s'émancipe de ce pouvoir-là et qui se revendique de ces héros de la révolution. Il faut le noter. Il faut pas dire que la population algérienne n'est pas concernée par son histoire. Bien sûr, quand je dis la rente mémorielle, je peux rajouter cette rente mémorielle a aussi reposé sur une histoire officielle.
Oui. Alors, il y a plein d'autres, on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Il y a plein d'autres propositions, hein, renommer certaines rues, créer des lieux de mémoire, de nouvelles cérémonies, la création aussi d'une commission mémoire et vérité chargée d'impulser des initiatives communes entre la France et l'Algérie, ou encore rapprocher la jeunesse des deux pays, notamment avec des visas entrée multiples. Voilà toutes les propositions, en certaines en tout cas, que propose le rapport Stora. Merci d'avoir partagé avec moi ce débat sur la mémoire importante de la colonisation et de la guerre d'Algérie. On aura évidemment l'occasion d'en reparler, puisque c'est une boîte à idées. On verra ce que le président décide avec l'ensemble de ces mesures proposées par Benjamin Stora. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, la suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives, comme chaque soir à cette heure-ci. Et ce soir, on va prendre de la hauteur. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, on remonte au 21 janvier 76. C'est le jour du premier vol commercial du Concorde, résultat d'une prouesse incroyable entre la France et le Royaume-Uni. Ce jour-là, deux Concordes vont donc décoller au même moment, l'un de Londres sous les couleurs de la British Airways pour rejoindre Bahreïn, et l'autre avec la compagnie Air France s'apprête à décoller de Paris. Direction Rio.
Il est 12h40 lorsque les réacteurs du Concorde se mettent à rugir sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un grand décollage après 7 ans d'essai et plus de 5500 heures de vol pour celui que l'on surnomme l'animal. Ce grand oiseau blanc fuselé de 62 mètres de long, ses ailes delta en forme de triangle isocèle et son long nez pointu et escamotable de 7,30 mètres. Ce jour-là, le reporter d'Europe 1 Alexandre Fronti se trouve à bord.
On va deux fois plus vite, 9175 km en 7 heures. On va aussi deux fois plus haut, environ 18 000 mètres, ce qui a pour avantage de voler bien au-delà des zones de turbulence. Détail curieux, quand on vole à cette altitude, le ciel n'a plus du tout la même couleur, il est bleu marine, et puis la Terre, on la voit vraiment toute ronde, on remarque très bien l'arrondi du globe terrestre. C'est vraiment fantastique. Je vole actuellement à bord d'une fusée supersonique.
Commentaire très stoïque, hein, parce que oui, par rapport
calme.
À la prouesse... Oui, oui.
C'est vrai, c'était assez étonnant. Une fusée supersonique qui atteint deux fois la vitesse du son, et il reste stoïque, soit pas loin de 2200 km/h. Ce premier vol fait escale à Dakar, avant d'arriver donc à Rio de Janeiro. 7 heures de vol contre 13 à 14 heures en temps normal.
Évidemment, c'est un sacré gain de temps, Hélène, que peuvent s'offrir des passagers très aisé parce que ça coûte très cher.
Il faut débourser 12 850 francs pour l'aller-retour, près de 2000 euros, c'est énorme hein, pour l'époque. Le menu est d'ailleurs hyper gastronomique, les hôtesses servent du foie gras, du caviar, du poulet truffé avec champagne et whisky bien sûr. Alors oui, forcément, le reporter d'Europe 1 que l'on vient d'entendre se retrouve parmi une clientèle très sélecte. Il y a ce jour-là en cabine le présentateur vedette de TF1, Yves Mourouzi, le couturier Valentino, le patron du Lido, et puis il y a tout de même quelques anonymes, la doyenne des passagers à 82 ans.
Il me plaît. Quand il est en vol, il est beau. Il est élégant.
Vous vous êtes préparé pour ce vol ?
Oui, j'ai la valise, j'ai tout. Les papiers, la vaccination, le passeport, on s'est prêt depuis 2 mois.
Et vous n'avez pas peur en avion, Madame Mouillet ?
Non, j'ai pas peur. Pensez-vous, un avion comme ça, important et tout.
Formidable ce témoignage. Mais Hélène, en réalité, lors des essais de l'avion, d'autres passagers ont eu le privilège de monter à bord.
En mai 1971, soit 5 ans avant le premier vol commercial, Georges Pompidou se rend à Toulouse pour participer à un vol d'essai. L'histoire dit que le président allumera une cigarette hein, quelques minutes après le décollage. Pompidou qui vantera dans un discours le projet Concorde au balcon du Capitole à Toulouse.
Pour un pays comme la France, dans une période qui est celle que nous vivons, la grandeur, c'est chaque jour de mettre une pierre de plus sur l'édifice de façon à le faire monter. Avec vous, nous le ferons monter jusqu'au ciel de Concorde.
La même année, le Concorde emmènera le président Pompidou aux Açores pour rencontrer le président américain Nixon. Il est d'ailleurs à l'époque encore impossible de survoler les États-Unis à vitesse supersonique. Interdiction finalement levée le 22 novembre 1977. Le Concorde relie pour la première fois Paris à New York en 3h30.
Le Concorde fait donc son chemin. En tout, 20 appareils seront fabriqués, mais le modèle s'essouffle.
Et oui, le Concorde n'est pas rentable. Le prix du kérosène, les coûts de maintenance sont trop élevés. Et puis, le crash du 25 juillet juillet 2000 à Gonesse qui tue 113 personnes sonne le glas de l'aventure Concorde. À cela s'ajoute la crise du transport aérien après les attentats de 2001. Le 31 mai 2003, le dernier vol commercial du Concorde Air France atterrit pour la dernière fois sur le tarmac de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il rejoint quelques jours plus tard le musée de l'air et de l'espace du Bourget sous les yeux de Jean-Philippe Ballas.
L'instant est historique. Les rayons du soleil sur la carlingue, feu allumé et train d'atterrissage sorti. À sa façon, Concorde vous dit adieu avant d'entrer au musée.
Et c'est la même année que les réacteurs du Concorde de la British Airways se tairont à jamais.
Merci Hélène pour ce joli récit. Ça fait toujours rêver le Concorde, même des années après. Merci à vous.
Merci.
Europe 1. Julien Bugier.
Dans quelques secondes, le rappel de l'info, Julien Pierce et puis Émilie Mazoyer pour la musique qui parlera de téléphone. Vous verrez pourquoi, je ne vous en dis pas plus. Merci de votre fidélité. Demain, à cette même place et à ce micro, vous retrouverez Isabelle Millet pour le 18-20. À lundi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.